Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Qui parmi nous a déjà été capable d'identifier le meurtrier d'un roman d'Agatha Christie? De résoudre, avant la fin, à l'aide de ces petites cellules grises, l'énigme criminelle imaginée par l'indétrônable reine du crime, la mère d'Hercule Poirot et de Miss Marple? Personne. Le crime de l'Orient Express, mort sur le Nil, le meurtre de Roger Ackroyd, ou encore, évidemment, les 10 petits nègres parus en 1939 et devenus désormais, ils étaient 10, considérés avec plus de 100 millions d'exemplaires comme le livre de crime le plus vendu au monde. Ces romans noirs sont entrés dans la légende par la stupéfiante habileté de leur auteur à entretenir le mystère. Mais si je vous disais que le plus grand mystère imaginé par la Duchesse de la Mort, comme on l'appelait, un mystère jamais résolu, ne se trouve pas dans l'un de ses livres, qu'il s'est écrit dans la vraie vie d'Agatha Christie et pas dans son œuvre, le mystère de sa disparition à la fin de l'année 1926. Durant plus d'une semaine, le Royaume-Uni tout entier va être tenu en haleine par un fait divers qui défraye la chronique. Agatha Christie, écrivaine fortunée de 36 ans, s'est volatilisée. Le vendredi 3 décembre, au soir, celle qui commence à se faire un nom dans le roman policier a quitté son luxueux domicile de Sunningdale, dans la banlieue chic de Londres. Elle a embrassé sa fille de 7 ans, Rosalind, laissé un mot à sa secrétaire pour qu'elle annule ses rendez-vous et elle a tout bonnement disparu. Sa voiture, une Maurice Cowley, est retrouvée le lendemain matin, abandonnée au bord du sinistre étang de Silent Pool à une trentaine de kilomètres de chez elle. Les phares en position allumée, les freins desserrés, ses effets personnels, dont un manteau de fourrure et son permis de conduire, sont à l'intérieur, mais aucune trace de la jeune femme. Que s'est-il passé? A-t-elle été victime d'un accident? S'est-elle noyée dans le lac? S'est-elle suicidée? On l'a dit dépressive depuis la mort de sa mère quelques mois auparavant. A-t-elle été enlevée? Son mari l'a-t-il assassinée?
Ça fait beaucoup de pistes, hein.
Toutes les hypothèses sont envisagées, Mathieu. Même celle d'un coup monté. Et il faut dire que pour une romancière à énigmes, disparaître dans de telles circonstances, le coup de pub serait habile. Le commissaire Kenward, chargé de l'enquête, penche plutôt pour l'hypothèse la plus probable, l'accident. Des battues sont organisées dès le samedi pour tenter de retrouver Agatha Christie. Les eaux du lac sont draguées, des filets sont placés dans les écluses de la rivière voisine, sa maison est fouillée de fond en comble, ses comptes bancaires sont inspectés, un aéroplane est même réquisitionné pour survoler la région. L'affaire mobilise les grands moyens, et tout le monde s'y met. Des reporters du Daily Express, du Daily News, du Daily Chronicle mènent eux aussi leur investigation. La presse étrangère aussi s'y intéresse. Même le grand Sir Conan Doyle, le père de Sherlock Holmes, enquête. Oh, pas à la manière de son personnage, une loupe à la main, à la recherche d'indices. Non, non, mon cher Watson. Lui fait appel à la logique psychique. Saviez-vous, Mathieu, qu'il versait à la fin de sa vie dans le spiritisme?
Oh non.
Il y voyait un moyen de communiquer avec ceux qu'il avait perdus pendant la Grande Guerre. Bon, ça c'est une autre histoire.
Oh, une autre émission.
Oui. Revenons-en aux investigations. Malgré les énormes moyens déployés, l'enquête piétine. Une piste toutefois fait les choux gras des journaux. Celle d'un meurtre orchestré par le mari d'Agatha, le colonel Archibald Christie, ancien pilote et héros de la Première Guerre mondiale. Il faut dire que les informations que révèle l'affaire sur la vie privée du couple ont de quoi éveiller les soupçons. Les Christie traversent depuis quelques mois une grave crise amoureuse. Quelques mois avant qu'elle ne disparaisse, Archie, c'est son surnom, a demandé le divorce. Il s'est certes rétracté par la suite, mais l'histoire vient de refaire surface, et pas n'importe quand. Le matin même de la disparition, le vendredi 3, une dispute éclate. Il revoit sa maîtresse, une certaine Nancy Neal, et annonce à Agatha vouloir passer le week-end avec elle chez un collègue. Détail intriguant, ce collègue habite justement tout près du lac où a été retrouvée la voiture. Étrange coïncidence, non? Il faut bien l'avouer.
Je l'avoue.
En quittant son domicile ce fameux vendredi soir, avait-elle l'intention de confronter son mari et sa maîtresse chez cet ami? Archie l'aurait-il intercepté en chemin? Les conjectures vont bon train, mais bientôt l'affaire va connaître un rebondissement. Le dimanche 12 décembre, grâce au portrait diffusé dans la presse, deux musiciens pensent la reconnaître dans un établissement thermal d'Arrogate, au nord de l'Angleterre. The Swan Idiopathic Hotel. Problème, la dame en question, une cliente qui séjourne à l'hôtel depuis le 4 décembre au soir, est enregistrée sous un autre nom, Mrs. Neal. Le même que celui de la maîtresse de son mari. Pour dissiper le doute qui subsiste, Archie est dépêché sur place. Le 14 décembre, il l'identifie formellement. Il s'agit bien de son épouse, Agatha Christie. 11 jours après sa disparition, le suspense prend fin. Le suspense, oui, mais pas le mystère.
Pourquoi ?
Car si Archibald Christie a bien reconnu son épouse dans le hall de cet hôtel du Yorkshire, elle, par contre, ne le reconnaît pas.
Ah ?
Elle souffre d'une perte de mémoire et des troubles d'identité.
On est d'accord que c'est un véritable épisode de la vie d'Agatha Christie, c'est pas une trame d'un de ses romans, Stéphane.
Mais c'est à s'y méprendre, n'est-ce pas, Mathieu ?
Ben oui, oui, c'est troublant.
D'ailleurs, les journaux se déchaînent. Tous veulent comprendre, éclaircir le mystère. Loin de répondre à toutes les interrogations, cette réapparition soudaine en pose encore de nouvelles. Pourquoi a-t-elle disparu ? A-t-elle momentanément perdu la tête ? Ou a-t-elle voulu se venger de son mari ? Ou alors, et c'est l'hypothèse la plus populaire, a-t-elle monté cette histoire de toutes pièces pour se faire de la pub ? Quoi qu'il en soit, de star montante de la littérature policière, elle passe, après cet épisode, au statut de superstar. Alors, à votre avis, Mathieu, coup de maître ou coup de folie ?
Eh bien, vous avez la réponse à votre question, vous l'avez formulée vous-même, elle passe d'écrivain célèbre, certes, au statut de superstar. Donc moi, je penche pour l'hypothèse de la supercherie, Stéphane.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Où êtes-vous ? On vous cherche partout. C'est le thème de notre émission cet après-midi. Stéphane, vous nous racontez l'histoire de la disparition d'Agatha Christie, digne de ses propres romans, hein, dont on a envie de connaître la fin. Alors Stéphane, quelles ont été les raisons finalement de la disparition si soudaine et très médiatisée de la romancière star en 1926 ?
Mais je suis bien obligé, cher Mathieu, de vous dire la vérité.
J'adore la musique avec le saxophone en tout cas.
Oui, c'est Hercule Poirot, vous savez.
Ah oui, c'est vrai.
Mais si vous voulez, on peut la laisser, la musique ?
Oui, on peut la laisser,
et je vais continuer mon récit.
C'est vraiment mystérieux.
Eh bien, c'est là la différence avec ces romans. Nous n'aurons jamais le fin mot de l'histoire. Jamais, Mathieu. Oui, parce que si Hercule Poirot, Miss Marple avait existé, peut-être aurait-il pu élucider toute cette affaire. Mais là, le mystère reste entier. Et vous savez quoi ? Agatha Christie a emporté son secret dans sa tombe en 1976. Même son autobiographie, publiée de manière posthume un an après sa mort, ne révèle rien sur la cause profonde de cette disparition. Tout juste parle-t-elle d'un épisode de profonde dépression. Alors, on a beaucoup parlé d'un coup de pub. Mais l'hypothèse, voyez-vous, mon cher Mathieu, ne tient pas vraiment la route. Certes, la veille de sa disparition, elle a prévenu son éditeur d'un séjour dans le Yorkshire. Mais à ce moment-là, on sait qu'elle avait l'intention d'aller se reposer dans une autre ville, Beverley. Or, c'est à Harrogate qu'elle est retrouvée. Et puis, elle est loin d'avoir tout gagné avec cette histoire. Son mari, dont elle était éperdument amoureuse, demande de nouveau le divorce 2 ans plus tard. Et comme vous le savez, elle épousera un archéologue qui sont toujours contents, plus leur épouse vieillit. Au vu des circonstances...
Mais qu'est-ce que c'est que ça, Stéphane ?
Mais vous savez, c'est une phrase célèbre d'Agatha Christie.
Ah, c'est elle qui dit ça ? Ah, d'accord,
oui, oui.
D'accord.
J'ai adoré épouser un archéologue parce que plus je vieillis, plus
notre invité qui est déjà en studio et dont je ne révèle pas encore l'identité est là. Elle fait non de la tête, Stéphane. C'est tout ce que je peux vous dire.
Elle n'a pas dit ça.
Vous racontez un peu n'importe quoi, mais nous verrons tout ça tout à l'heure. Attention. Bon,
je veux avoir le fin mot de cette histoire. Au vu des circonstances de sa disparition, l'hypothèse d'un coup monté paraît peu crédible. La mort de sa mère, la demande de divorce, la maîtresse, vous savez, Mrs. Neal, la dispute le matin même. Certes, le scénario relève presque de la fiction, mais est-ce étonnant de la part d'une femme à l'imagination aussi débordante ? N'est-il pas plus probable qu'Agatha Christie, dans un état émotionnel critique, ait agi de manière dramatique ? C'est d'ailleurs ce qu'elle raconte elle-même au Daily Mail, 2 ans plus tard, en 1928. Ce vendredi soir, j'ai quitté la maison dans un état dépressif grave et avec l'intention de faire un geste désespéré. J'ai roulé et laissé la voiture descendre vers une carrière en contrebas. Un obstacle arrêta violemment ma course et je fus projeté contre le volant. Complètement étourdi, j'ai perdu la mémoire. Durant 24 heures, j'ai erré comme dans un rêve et je me suis retrouvé à Harrogate dans la peau d'une autre femme. Est-ce vrai ? Qui sait ? Peut-être que ce n'est vrai qu'à moitié. Agatha Christie était une femme d'une complexité étonnante, une femme aux vies multiples. Ce n'était pas qu'une romancière, loin de là. Derrière le collier de perles, la mise en plis, se cache une globe-trotteur qui a partagé sa vie entre l'Angleterre et le Moyen-Orient, une soprano passionnée de musique qui rêvait de devenir chanteuse lyrique, une infirmière assistante chimiste, mais aussi l'une des pionnières du surf sur les plages d'Hawaï. Mais oui, Mathieu.
C'est fou.
Une personnalité riche, une artiste en somme qui, peut-être dans un moment de désespoir et d'égarement, s'est lancée dans un geste fou, un geste comme dans un roman. Brouillant le temps de quelques jours, les frontières entre vie et littérature, entre réalité et fiction, un énième roman, mais peut-être l'un des plus fascinants.
Europe 1, historiquement vôtre.